Bonjour à tous et à toutes, merci d'être parmi nous cet après-midi aussi nombreux. On va démarrer les rendez-vous des élèves dans le cadre des ETS 2025. Et donc, ce rendez-vous des élèves se déroule toute cet après-midi. Il y a quatre séances qui sont prévues sur des thématiques très variées. Donc, je vous invite à rester pour toutes les voir. Elles sont très intéressantes. Pour animer cette première table ronde qui va être consacrée à l'articulation des différents temps des politiques publiques et notamment sur un focus pour les questions de transition écologique. On est deux animateurs, donc Annette Charles, administratrice ou élève encore, administratrice territoriale, et moi-même, Roberto Garcia Alcubilla, élève ingénieur en chef. Donc comme quoi vous voyez qu'on a du temps pour être élève à tout âge. Et donc, on a en premier sujet cette articulation entre les différents temps de politique publique. Comment on peut faire pour, dans le temps actuel où la crise climatique s'accélère, conjuguer les décisions qui doivent être prises tous les jours, puis sur un mandat, puisque la politique impose ce rythme de fonctionnement, avec un temps qui est beaucoup plus long, où il y a des transformations qui sont beaucoup plus lentes, et notamment en matière de transition écologique. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, et pour ça on a nos deux intervenants, Aurore Collin, à ma droite, qui est chercheuse à I4C, donc en bon français ça donne Institut de l'économie pour le climat, où elle travaille spécifiquement sur le financement de la transition écologique à l'échelle locale, et Emmanuel Roed, qui est directeur général des services de la ville de Grenoble et qui a auparavant travaillé aussi en département et ici même à l'aéro-métropole de Strasbourg. Donc vous allez voir, c'est un format qui va être en podcast, donc il va y avoir un peu des répétitions. On s'en excuse par avance, mais ça n'enlève rien à l'intérêt qu'il peut y avoir sur le fond de la table ronde. En première partie, on va aborder justement cette nécessité de se projeter sur le temps long, de prendre des décisions au jour le jour, mais aussi avec une projection. Et quelle est la différence, quel est le rôle, la complémentarité ou pas à voir du rôle qu'il y a entre les élus et les cadres dirigeants sur ces sujets. À toi, Annette.
Donc pour ouvrir cette première partie, on avait une première question sur... On parle d'articulation des politiques publiques, mais particulièrement en matière de transition écologique. Donc pourquoi est-ce que c'est si nécessaire d'articuler court, long, moyen terme en matière de transition écologique parmi d'autres politiques publiques? Une question pour Aurore.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation à intervenir. Pour répondre à cette première question, je vais soulever trois points. Pour dire en quoi c'est nécessaire d'articuler temps long et temps court quand on parle de transition écologique. Le premier point, c'est que la nature même du changement climatique et de la façon dont on y fait face nécessite de s'intéresser aux trois temporalités, passé, actuel et futur. Le changement climatique, c'est un phénomène qui est assez long, en fait, et qui est assez long, qui prend du temps, et aujourd'hui, les actions qu'on prend actuellement, elles auront un effet sur le climat de demain. Donc, en tant que décideur, il faut se dire que la décision, et c'est très difficile, que je prends aujourd'hui de rénover un bâtiment, d'électrifier un véhicule, de construire une infrastructure de transport de report modal, en fait, l'essentiel des bénéfices de ma décision et de cet investissement seront pour des générations futures et seront pour demain. Donc, ça demande de la responsabilité et vraiment une intégration du futur, du temps long, dans la prise de décision actuelle. Un autre aspect aussi, c'est donc ce changement climatique, il est dans les prochaines années, il est plus ou moins, on sait, dans les 5-10 prochaines années, comment le climat va varier. Donc c'est vraiment dans le futur un peu plus long terme que là, on peut vraiment agir et donc faire en sorte de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour justement protéger les populations, les territoires des effets du changement climatique. Donc ça, c'est un point important sur ce phénomène qui est long et qui nécessite pour les décideurs de prendre en compte et même de prioriser, ce qui est difficile, quand on en parlera, quand on a une urgence aussi du présent et du temps court, de prioriser aussi dans la décision les impacts futurs de ma décision et pas seulement ses impacts présents. Et donc ça demande une gymnastique intellectuelle qui est assez particulière. Donc pour nous, chercheurs, et puis en général, pour aussi surtout scientifiques, comment on motive l'action publique pour la transition écologique, sachant que les bénéfices sont surtout, on va dire, dans un futur plus ou moins long. Alors, on a quelques concepts qu'on essaie notamment en économie de développer pour motiver, pour rendre palpable un petit peu ces bénéfices-là à long terme de l'action publique pour le climat. Notamment, je voulais vous parler du coût de l'inaction que vous connaissez peut-être, mais en fait, c'est une dimension importante à avoir en tête quand on prend une décision. On en a parlé récemment, la Cour des comptes a sorti un rapport qui remet devant l'importance de ce temps long et du coût de l'inaction à ne pas agir face aux priorités du présent. Reprend les chiffres de la Banque des France qui dit qu'à 2050, sur un scénario où on n'agit pas, on perdrait jusqu'à plus de 11 points de PIB à 2050. Donc en fait, ça permet de rendre palpable aussi les coûts économiques à ne pas agir, à ne pas faire, à se décider aujourd'hui pour justement avoir un futur, on va dire, plus agréable et moins aussi exposé au risque de dommages climatiques. Il y a un autre concept aussi qui est beaucoup utilisé dans le cadre de la prévention par les assureurs aussi, par exemple, qui eux ont l'habitude de prendre en compte ce temps long, d'anticiper les dommages pour justement prévenir. C'est les coûts des dommages futurs évités. Et donc ça, c'est aussi une dimension qui est prise en compte quand on parle de changement climatique, à la fois en termes d'atténuation pour le coût de l'inaction et adaptation aussi, hein, savoir justement anticiper pour mieux se protéger avec cette notion des coûts des dommages évités. Il y a aussi une dimension importante à prendre en compte quand on parle de changement climatique. Pourquoi est-ce que c'est important de ramener temps long et temps court? C'est aussi la nature des investissements des collectivités, et notamment des acteurs publics, mais les collectivités investissent, c'est elles qui portent les trois quarts de l'investissement public en France. Et donc les investissements qu'elles réalisent sont des investissements de long terme, d'infrastructures, de bâtiments, des investissements d'aménagement du territoire qui vont en fait définir nos modes de vie de demain. Et en fait, quand je décide de construire une route, de construire une bibliothèque, de rénover un gymnase, une piscine, en fait, c'est demain des comportements qui vont être en fait dépendants de mes décisions actuelles. Et ça, c'est important de se dire quel futur est-ce que je veux, quel mode de vie est-ce que j'ai envie d'avoir sur mon territoire au moment même de prendre la décision d'investissement. Donc, on sait aujourd'hui, on le dit, les investissements d'aujourd'hui sont en fait les émissions de gaz à effet de serre de demain. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte, notamment en tant que collectivité, quand il y a des gros aménagements d'infrastructures, de bâtiments aussi, qui durent plusieurs dizaines d'années. Et c'est encore plus vrai pour l'adaptation, puisque un climat qui change, mon bâtiment, est-ce qu'il sera encore utilisable dans 20-30 ans, quand il y aura des canicules au printemps, à l'automne? Il faut prendre en compte aussi ces changements-là dans les investissements actuels. Et le troisième aspect aussi qui est important à prendre en compte quand on parle de temps en termes de changement climatique, c'est l'ampleur de la transformation attendue par la transition. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte de l'ampleur de cette transformation qui concerne l'ensemble des secteurs de l'économie et qui sont inédites, je pense, par la rapidité à laquelle on doit changer et transformer notre économie. Et donc ça, on n'arrivera pas par hasard. J'aime bien le dire, c'est pas par hasard, coup par coup, en gérant le présent, qu'on va réussir à faire une transition, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le transport, l'alimentation, les bâtiments. Donc en fait, il faut se donner des caps dans le futur, ce qu'on fait, des objectifs aussi dans le futur, qui soient en accord avec la vision du futur qu'on souhaite, avec la lutte contre le changement climatique, et ensuite une feuille de route. Une feuille de route qui va en fait déterminer la façon dont aujourd'hui on va agir, pour justement suivre cette feuille de route-là. Et ça, c'est très important. La transition nécessite de planifier et de programmer plus que dans d'autres enjeux, et donc de ramener de la pluriannualité dans nos décisions, et aussi on le verra dans le budget.
On reviendra justement sur les outils de prévision, de planification dans notre deuxième partie. Peut-être que, en rebond à ça, comment est-ce que Emmanuel Rouet, vous voyez l'articulation, la complémentarité des rôles de l'élu, du cadre dirigeant, pour penser, à la fois pour anticiper le temps long et l'intégrer dans l'enjeu actuel?
Alors, je vais revenir un instant sur ce qui a été évoqué ce matin en plénière en parlant de la démocratie, parce que si on prend la démocratie tant comprise comme société démocratique ou comme institution politique, la démocratie a un biais très important vers le présent. Donc Thomas Jefferson disait que la terre appartient en usufruit aux vivants, les morts n'ont aucun droit. Notre système démocratique, il est organisé sur le fait que c'est la génération présente qui prend toutes les décisions, y compris pour les générations futures. Donc, on a un biais démocratique qui est vraiment orienté vers le présent. Et pourtant, les institutions dans lesquelles nous sommes, nos villes, qui sont parfois millénaires, les départements qui ont deux siècles, les régions un peu moins, mais sont des institutions qui sont inscrites dans le temps long, dans la durée, et qui seront là bien après nous. Donc, cette dimension du temps long, elle est inhérente et on la retrouve dans chacune des décisions que l'on prend, dans le domaine de la planification urbaine. Comme le disait Aurore, les investissements que l'on fait, ils sont amortis sur plusieurs décennies. Les remboursements de capital que l'on fait, en fait, on rembourse les investissements qui ont été faits par les mandats et les municipalités précédentes. Donc, on est vraiment inscrit dans le temps long, et les échelles de la transition environnementale et sociale sont aussi dans le temps long. Et la planification urbaine, la ville, c'est vraiment cette échelle du temps long. Quand vous promenez dans le centre de Strasbourg, vous marchez dans des rues qui ont été dessinées par les Romains, par les légionnaires romains, sur le camp d'Argentorum, autour de la cathédrale. Donc, c'est des endroits où il y a 2000 ans d'histoire humaine. Et les tracés, et ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui va marquer le territoire, marquer la ville pendant des siècles. Les décisions que l'on prend, elles sont effectivement inscrites dans le temps long. Et pour rebondir aussi sur ce qui a été dit ce matin dans la plénière, on se retrouve dans la relation entre élus et cadres dirigeants sur la question de l'articulation entre la légitimité de désignation par le suffrage universel, qui est celle des élus, et la légitimité de compétence, qui est issue du concours, qui est celle des fonctionnaires et des dirigeants. Et sur cette question de la préhension du temps long, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est que ça rentre dans le cadre de notre légitimité de compétence, en tant que cadre dirigeant, d'éclairer l'ensemble des décisions politiques sur leurs conséquences sur le temps long. Donc les fonctionnaires et les cadres dirigeants sont entièrement légitimes à intervenir sur ce champ-là, dans le respect des différentes légitimités qui organisent notre système républicain.
Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous parler de la fresque 2040 et de ce projet qui a été mené à Grenoble ?
Alors, la fresque 2040, c'est une démarche un peu particulière, parce que c'est pas une démarche de planification, c'est une démarche prospective. Et on s'inscrit justement dans un cadre d'un renouveau de la prospective qui revient sur le devant de la scène, dans le sillage de l'ADEME, de RTE, donc qui ont permis de remettre la prospective qui avait un peu disparu du paysage pendant quelques décennies sur le devant de la scène. Et y compris un petit peu en contrepoint de ce que disait Aurore, c'est qu'on commence à toucher de manière un peu inconsciente les limites de la planification. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où c'est très difficile de prévoir. Olivier Hamon dit qu'on est passé d'un monde de la moyenne à un monde de l'écart-type, dans lequel, en fait, on la capacité qu'on avait de pouvoir dessiner, tracer des courbes de croissance exponentielle est en train un petit peu de se dissoudre dans les perspectives de transition sociale et environnementale. Et donc, il faut essayer de repenser la manière d'aborder le futur. Et dans ce cadre-là, la prospective, elle propose une autre approche. C'est non plus de prévoir, mais c'est d'imaginer un futur possible. Et la démarche, elle est radicalement différente. C'est-à-dire que on imagine un futur possible et plausible. Et cette démarche-là, en fait, en faisant ce travail d'imagination, on va créer et on va nourrir des imaginaires. Et ce sont les imaginaires qui, eux-mêmes, vont derrière déclencher de l'action. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, parce que un des principes fondamentaux du marketing et de la publicité. Si vous avez dans vos poches des iPhones ou des autres types d'équipements, c'est parce qu'en fait, Apple vous a convaincu que ça répondait à votre imaginaire et que ça répondait à votre besoin d'avoir ce type. Donc, la possibilité de créer et de travailler sur les imaginaires qui vont nourrir le futur et les décisions qui vont être à prendre à tous les niveaux. C'est quelque chose qui est important. Et la prospective, on a essayé de l'aborder comme étant un outil qui rentre dans cette démarche-là pour aborder différemment le futur. Donc Grenoble, elle avait été capitale verte de l'Europe en 2022 et on avait lancé une démarche Grenoble 2040, une démarche prospective, pour se dire, en 2040, les enfants qui sont nés à Grenoble pendant l'année capitale verte, ils seront majeurs en 2040. Donc c'est une échelle temporelle qu'on maîtrise à peu près tous, parce qu'on l'a vécu, parce que je vois ils sont que des majeurs, donc vous savez ce que c'est de passer de 0 à 18 ans, mais vous avez aussi des enfants, pour certains et certaines d'entre nous, donc c'est une échelle temporelle qu'on arrive à bien appréhender, et on s'est dit, on va essayer d'imaginer la ville à l'horizon 2040 dans une marche prospective. Pour ça, on s'est fait accompagner par des experts, par Iba Debouc de la REP et Nicolas Tixier, qui est un enseignant-chercheur de l'école d'architecture de Grenoble. On a bâti des ateliers territoriaux avec les habitants pour faire un diagnostic autour de la ville perçue du point de vue de l'urbanisme favorable à la santé. Et à partir de cette matière, on a élaboré un ensemble d'ateliers créatifs qui mêlaient des élus, des fonctionnaires des services de la ville, mais aussi des experts, pour essayer de bâtir des portraits d'une dizaine de quartiers de Grenoble qui sont représentatifs du tissu urbain et de se dire en 2040 voilà le futur qu'on imagine et ce qui a permis de faire cette synthèse c'est la plume, le dessin, la patte de Gaëtan Amossé qui nous a fait un dessin magnifique donc que vous pouvez consulter sur le site de la ville de Grenoble qui a été mis en ligne sous un format numérique et qui permet de se projeter sur un futur possible de 2040. C'est pas un futur qui est planifié parce qu'il se réalisera jamais comme il a été dessiné et c'est pas notre intention mais c'est un futur qui est inventé, imaginé et sur lequel on espère qu'il va déclencher des actions et des possibilités de développement, de réalisation par les habitants.
Merci beaucoup. Je suis désolée, faut qu'on enchaîne sur la suite parce qu'on déborde déjà un petit peu le temps, donc on conclut cette première partie qui est un peu introductive sur cet enjeu d'articulation des temps.